Bien, ben bonjour à toutes et tous. Donc, dans le cadre de nos études sur la louange, on va étudier ce matin ce qui est censé être la plus belle des louanges, le cantique des cantiques. Donc, c'est un superlatif, le plus beau des cantiques, le plus beau des chants. Donc, un texte particulièrement important. Et pourtant, en le préparant, j'ai remarqué que c'était un texte qui pouvait déranger, qui pouvait poser quelques problèmes. Au IVe siècle, par exemple, dans le cadre d'un conseil d'éducation religieuse qui est fait à une jeune fille par Saint Jérôme, donc Jérôme de Stridon, les conseils de lecture sont les suivants. Qu'elle commence par les évangiles, que ses mains ne devront jamais quitter, qu'elle s'abreuve aux actes des apôtres et aux épîtres avec toute sa bonne volonté, que lorsque tous ses trésors auront enrichi le cellier de son cœur, qu'elle confie à sa mémoire les prophètes, les livres des rois, les volumes d'Esdras et d'Esther, en dernier lieu, elle pourra sans danger étudier le Cantique des Cantiques. Mais si elle débutait par cette lecture, elle risquerait que son âme soit blessée, faute de comprendre l'épithalame. L'épithalame, alors ça veut dire un chant de mariage, l'épithalame des noces spirituelles que recèlent des expressions charnelles. Voilà, vous voilà prévenu. Plus récemment, au XXe siècle, je lisais une étude en ligne sur dans Chaque jour les Écritures qui commence par « N'abordons pas ce livre sans demander d'abord au Seigneur de nous garder de toute pensée profane ». Voilà. Y a de quoi faire frémir, et en fait ce texte a fait frémir. Et là je fais le malin, mais c'est vrai qu'en l'étudiant, l'affaire n'est pas mince. Il s'agit du plus beau des cantiques, sans doute aussi d'un texte peu étudié le dimanche matin, qui est clivant et qui dérange. Alors pourquoi il dérange? Déjà parce qu'il s'échappe en grande partie à nos systèmes d'interprétation. Il n'y a pas de consensus sur l'auteur, même s'il est attribué à Salomon, ni sur sa date. On voit des formes de langage qui datent d'époques plus anciennes, d'autres plus récentes. Il y a un début qui commence, on dit en littérature, in medias res, c'est-à-dire au milieu des choses, par une expression très puissante, qu'il m'embrasse, qu'il me baise, des baisers de sa bouche. Il n'y a pas de fin véritable, ça se termine de manière un peu évanescente, sur une fuite, une invitation à une fuite. Donc, le livre, dans sa structure, quelque part, nous échappe. Autre problème, Dieu est quasiment absent. Il est mentionné à une seule reprise, au chapitre 8, au verset 6, où il est question des flammes de l'Éternel. C'est la seule mention de Yahvé. Donc, verset 6, du chapitre 8. Donc il est difficile de relier ce cantique avec ce qu'on connaît du plan rédempteur de Dieu, de l'histoire des alliances entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Alors, sans spoiler, Dieu est peut-être peu mentionné, mais en réalité il est présent partout. On dit présent partout, visible nulle part. Ça on le verra un peu plus tard. Mais ça a pu déranger au point de questionner sa place dans le canon biblique. Sa place à la fois de la Torah et ensuite des deux Testaments. Aussi parce que sur la forme comme sur le fond, le livre laisse une place très importante à l'amour physique, à l'amour, au désir sensuel, sexuel même. C'est une poésie qui, par beaucoup d'aspects, évoque des sujets que l'on n'a pas l'habitude de traiter forcément en église, publiquement, avec des âges et des situations de vie très différentes, puisque c'est un domaine qui peut être diversement vécu selon les sensibilités et selon les histoires de chacun. Alors, dès le 1er siècle, la question s'est posée de savoir s'il fallait le placer ou non dans le canon. La réponse a été progressivement affirmative. Il y a deux traditions principales d'interprétation qui ont permis de lever l'obstacle des passages sensuels, charnels que ce livre nous propose. La première tradition, c'est la tradition juive. Je ne vais pas développer ces traditions parce que ce serait beaucoup trop long. Mais dans le judaïsme, l'habitude est de lire ce livre parmi les livres de sagesse lors des fêtes qui lui sont dédiées, et d'en faire une interprétation allégorique, symbolique. C'est-à-dire que le livre nous parle certes de la relation entre un homme et une femme, mais il nous parle par-dessus ça, et même davantage, de la relation entre Dieu, Yahvé, et son peuple. Alors, il y a des passages où c'est tout à fait convaincant. On peut penser, dans le premier chapitre, je vais jongler un peu selon les passages, mais où les questions, par exemple, il y a une comparaison entre la jeune femme et les juments des chars de Pharaon, on appréciera la comparaison, en expliquant qu'il faut qu'elle quitte donc un espace où elle souffrait, où sa peau était brûlée par le soleil, Donc là, les rabbins, ils lisent une référence à l'Exode. Il est question aussi au verset 4 d'un roi qui introduit la jeune fille dans ses appartements. Donc ici, dans la tradition juive, ce verset-là, c'est la sortie du peuple d'Égypte et son arrivée dans la terre promise. Donc ça permet, ces allusions-là, plus toutes les descriptions avec les couleurs, les épices qui vont suivre ensuite lors des discours amoureux, de faire des liens avec l'histoire du temple, avec l'histoire du tabernacle, avec voilà, des éléments de la tradition juive qui rassurent parce que ils sont, j'allais dire, éloignés des préoccupations amoureuses. Dans la tradition chrétienne, il y a eu la même tentation, si j'ose dire. C'est-à-dire l'idée d'y voir non pas un discours amoureux, un poème érotique, mais une histoire de la relation entre Dieu et les hommes, et son Église en particulier, dans le cadre général du plan rédempteur de Dieu. Alors, cette interprétation-là est tout à fait convaincante. Elle est autorisée par plusieurs choses que je ne développe pas. Par exemple, ce passage qu'on a lu dans Luc de Jésus qui relie les Écritures avec ses disciples en expliquant que tout ce qui précède dans l'Ancien Testament le concerne. Donc, c'est tout à fait logique qu'on puisse lire le Cantique des Cantiques avec cette perspective en tête. C'est le cas aussi, c'est très convaincant quand il est question de la dynamique de relation entre le bien-aimé et la bien-aimée, entre la jeune femme et le bien-aimé. On verra un peu plus tard que le bien-aimé disparaît très souvent, il est fuyant, il est évanescent, il fuit. Et donc il y a eu toute une tradition d'interprétation qui reliait cette expérience du départ de l'absence à l'expérience du chrétien, à savoir Jésus n'est pas là quotidiennement, donc ça crée un désir dynamique, un désir parfois frustré, mais un désir puissant de le retrouver et d'aller vers la fin des temps. Alors ça, c'est pour les parties les plus convaincantes. Malheureusement, si on pousse jusqu'au terme ces systèmes d'interprétation, on aboutit soit à des impasses, par exemple, pourquoi la bien-aimée dirait à son bien-aimé de fuir à la fin du texte alors que précisément elle espère le retrouver, soit à des choses un peu plus farfelues, comme par exemple Cyrille d'Alexandrie qui interprète le verset 13 du premier chapitre, que je vous lis. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Cyrille d'Alexandrie nous explique que les saints représentent l'Ancien et le Nouveau Testament et le bouquet de myrrhe, l'arrivée de notre Seigneur. Alors, ça peut sembler ironique vu comme ça, mais tout cela mériterait d'être approfondi parce que ça correspond à une sensibilité, ça correspond à un système d'interprétation. Mon idée ici, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est de dire que ces interprétations-là ne s'excluent pas, mais ce n'est pas ce que je vais développer. Pourquoi? Parce que la liberté du texte, ses ruptures, la diversité de ce qui nous est présenté font que c'est un texte qui s'échappe des cadres. Et que vouloir caser des cadres absolument risque d'en diminuer, je pense, une partie de la puissance et de la portée. Donc, ce que j'aimerais ce matin, c'est vous donner envie de relire ce texte, déjà, en une demi-heure, d'en apprécier la beauté, la puissance, de ne pas avoir peur, en fait, de le relire par rapport à ce que je développe au début. Il me semble que c'est un texte qui est très beau, qui est joyeux, qui recèle beaucoup de secrets peut-être, mais aussi beaucoup de choses très lumineuses qui, je pense, conviennent à tous les âges et à toutes les situations. Ce sera mon premier point. Je développerai l'idée qu'il s'agit d'un recueil de poésie amoureuse qui célèbre effectivement, dans sa compréhension la plus simple, l'amour physique, dans ses motifs, comme dans son langage. Et c'est aussi pour ça que le texte dérange, c'est que le langage est aussi une illustration du plaisir sensuel. Pour autant, je vais développer un aspect peut-être moins évident, ce sont les ombres qui sont attachées à cette expérience du désir. Il me semble que ce poème n'est pas simplement un poème amoureux, c'est aussi un poème qui nous avertit sur un certain nombre de menaces, de difficultés qui sont associées justement au sentiment amoureux et à ce qu'on peut ressentir dans ces situations-là et aussi à ces difficultés. Donc un poème édifiant en deuxième partie, et en troisième partie, si j'ai le temps, je m'attacherai à développer des enseignements de sagesse, puisqu'il me semble que ce texte est aussi un texte de sagesse, qui est cohérent avec les autres textes qu'on peut voir dans le même registre, qui nous parle aussi, bien évidemment, d'un amour beaucoup plus puissant et beaucoup plus durable, qui est celui de Dieu. Voilà pour mes trois parties. Alors on va commencer par le plus immédiat, j'ai nommé cette partie un cantique nommé désir, puisqu'il est question du désir. Le désir, il est un sujet du début jusqu'à la fin du texte. Un poème qui exprime la passion, effectivement, entre un homme et une femme. Alors sur le récit, sur l'ombre de personnages, je ne vais pas rentrer dans les débats qui existent. En fait, une autre tentation, quand on est en difficulté par rapport à l'interprétation symbolique, c'est d'essayer d'y voir absolument un récit, quelque chose de dramatique, avec plusieurs écoles, ceux qui vont y voir une histoire d'amour entre Salomon d'un côté et celle qui est appelée la Sulamite, donc c'est une habitante d'une ville probablement du nord d'Israël, de Palestine, et qui visiblement vient de la campagne et semble, par différents indices, être quand même assez jeune. Et Salomon, qui est présenté donc à la fois comme un amant un peu fuyant et comme un roi en majesté à plusieurs reprises dans le texte. Donc ça, c'est l'interprétation la plus classique. Une autre interprétation qui existe, je ne la développerai pas, c'est de ne pas voir deux personnages mais trois. Donc c'est une interprétation qui est assez à la mode dans certains milieux évangéliques, qui a son intérêt et ses limites. Donc il y aurait trois personnages, il y aurait un berger et une bergère, donc la Sulamite et son bien-aimé, et Salomon aurait un rôle un peu plus ambigu, ambivalent, de séducteur, de tentateur, voilà. On verra qu'il y a certains passages qui pourraient effectivement montrer cette ambivalence de Salomon, mais là, pour le coup, moi, je ne me prononce pas sur ces deux... Enfin, si, je peux me prononcer, moi, je pense qu'il n'y a que deux personnages, mais je ne vais pas développer pourquoi. Chacun se fera son idée à la lecture. Ce qui m'intéresse, c'est le langage, l'expression de ce désir dans ce document. On a effectivement des personnages qui exprime sans retenue, avec passion, avec ardeur, leurs sentiments mutuels, leurs sentiments réciproques. Alors, ils se l'expriment mutuellement déjà, on le voit dès le premier chapitre, je vous lis un verset, même deux versets, puisqu'on a un joli dialogue qui fait comme une danse. Verset 15 du premier chapitre. « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. » Réponse de la Sulamite, de la jeune femme, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure, les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Alors, ce qui m'intéresse là, ce sont les deux phrases exclamatives qui se répondent, que tu es belle, et qui se répètent. La répétition des structures exclamatives accentue l'admiration, la force, la puissance du sentiment. Pourquoi ? Parce que c'est une structure qu'on retrouve partout dans le texte. Dès le début, hein, qu'il me baisse des baisers de sa bouche, au verset deuxième du chapitre premier. Au chapitre 4, on a aussi deux expressions qui suivent la même structure. Hein, « Comme tu es belle, mon ami, comme tu es belle !» Point d'exclamation. Chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 10. « Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée !» Un peu plus loin, il est question des pieds, on verra que ça a son importance. « Que tes pieds sont beaux !» Chapitre 7, verset 1. « Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince !» Donc, ces structures-là, elles traduisent une émotion forte. Je rappelle qu'auparavant, dans le français, le point d'exclamation est appelé point d'admiration. Donc c'est peut-être un détail, mais il est question d'une admiration exprimée à l'autre des sentiments que l'on ressent. Il revendique, alors non seulement ils se déclarent leurs amours mutuellement, et vous verrez qu'à plusieurs reprises, on a l'impression même qu'ils se répondent, ils revendiquent aussi leur amour face aux autres, à deux reprises, lorsque on a des épisodes un peu mystérieux où la Sulamite cherche son bien-aimé qui a disparu. Chapitre 5, verset 8, par exemple. Chapitre 5, verset 8. Il y a un épisode violent avec les gardes, sur lequel je reviendrai. Et au verset 8, « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Que je suis malade d'amour. » Je suis malade d'amour. Un peu plus tôt, au chapitre 3, toujours avec les gardes, la bien-aimée assume « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» Donc, on a un amour qui s'exprime mutuellement, mais qui s'exprime aussi devant les autres, publiquement, même si il y a quelques indices, je ne développerai pas cet aspect, qui pourraient laisser croire que cet amour n'est pas complètement aligné sur les attentes familiales et les attentes de ce temps. Il y a des indices de clandestinité, les visites se font parfois à des moments crépusculaires où ce qui se passe n'est pas forcément bien défini. Il y a des références familiales assez étonnantes, par exemple de frères qui se constituent les gardiens de leur sœur, d'une mère à qui il faudrait ramener le bien-aimé régulièrement pour qu'il soit accepté, peut-être. Et puis même, à un moment donné, la bien-aimée dit « J'aimerais que tu sois mon frère de manière à ce que je puisse parler de toi sans que l'on me méprise. » Donc il y a des indices qui montrent qu'on n'est pas forcément dans un amour qui est le plus facile à assumer, même s'il est assumé par ailleurs, donc le texte parfois se contredit, mais un amour qui dépasse peut-être le regard des autres. Et alors, ce qui frappe, et ce qui dérange, c'est que c'est un amour physique. C'est un amour profondément physique. Il met en scène des corps, et il le fait avec précision et avec évocation. Alors, rapidement, on voit qu'il y a des gros blocs de description à plusieurs reprises dans le texte, par exemple au chapitre 4, on pourra le lire, on a un regard qui va plutôt de haut en bas, « Que tu es belle, mon amie, que tu es belle, tes yeux sont des colombes derrière ton voile, tes cheveux comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad, tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues qui remontent de la Beauvoir, tes lèvres sont comme un fil cramoisi, ta bouche est charmante, ta joue. » Donc vous voyez, le corps est décomposé à chaque aspect, il y a d'autres indices dans le texte qui décomposent comme ça chaque partie du corps. On a aussi l'inverse, hein, de bas en haut, au chapitre 7, où on commence par les pieds, chapitre 7, verset 2, « Que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille de prince, les contours de ta hanche sont comme des colliers. » Donc les pieds, la hanche, la poitrine, ensuite le corps, ensuite de nouveau la poitrine, ensuite le cou, ensuite les yeux. Donc là, on a un mouvement inverse, on monte, donc regarde de haut en bas, regarde de bas en haut, et puis des corps qui sont assumés dans leur diversité. Hein. Je rappelle ce verset qui est au milieu du chapitre 5, « Je suis noir », alors certaines traductions c'est « je suis bronzé », mais « je suis belle ». Donc on a quand même un discours, je dirais pas body positive, mais il s'agit d'apprécier la beauté des corps, quelle que soit leur forme. Même si on a quand même des standards de beauté qui sont parfois quand même assez classiques dans les descriptions. Alors, j'insiste sur un point qui est quand même une des forces aussi de ce passage, c'est qu'on a un texte où le désir n'est pas uniquement masculin. Le désir est aussi féminin. Et ça, c'est quelque chose qui peut sembler un peu banal aujourd'hui, mais qui pour l'époque est tout à fait, je dirais pas révolutionnaire parce qu'il faudrait étudier, mais tout à fait singulier, important, c'est-à-dire que la jeune femme assume son désir pour un homme et pour le physique d'un homme, en particulier au chapitre 5, au verset 10, où il y a une description qui par ailleurs rappelle certains passages de l'Apocalypse. « Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000, sa tête est de l'or pur. » Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colonnes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Il faudrait chanter tout ça pour en avoir un... Puis en hébreu, pour en avoir une forme un peu plus vigoureuse. Mais mon point ici, c'est quand même de dire que, contrairement aux traditions antiques, les femmes ont la parole et assument un désir tout à fait simple et évident pour leur bien-aimé. Je dis ça parce qu'il est question de mariage... de manière plus ou moins claire dans le texte, et on sait que dans l'Antiquité, en particulier dans l'Antiquité grecque, les mariages avaient lieu très jeunes pour les jeunes femmes qui étaient mariées en fait dès lors où elles pouvaient enfanter. Elles quittaient la maison du père et de la mère, du coup, qui est ensuite passée sous la tutelle de leur mari, qui souvent était un citoyen fait, c'est-à-dire avec quelqu'un avec un âge beaucoup plus important. Et dans les sources, sur les récits à la fois amoureux et les récits de mariage grec et hellénistique, la femme est mutique. Elle ne dit rien, parce que précisément, ce n'est pas forcément une expérience agréable que d'être mariée de force quand on est trop jeune avec un homme trop âgé. Donc, ce texte-là, à mon sens, a une valeur historique importante, puisque même dans les poésies orientales qui peuvent faire penser à ce type d'écrit, à ce genre littéraire, en réalité, c'est souvent l'homme qui a la parole et uniquement l'homme qui décrit tous les charmes qu'il peut voir dans un corps féminin, et rarement l'inverse. Alors que là, on a les deux, et je crois que ça vaut la peine de le souligner. Alors, comment on met en valeur l'être aimé? Par l'analogie. Je ne vais pas tout déployer, parce que ce serait beaucoup trop long, mais vous avez vu à la lecture de ces deux passages qu'on a un foisonnement d'images. La métaphore, pour ceux qui se rappellent leur cours de français, les comparaisons et les métaphores sont légion. Alors, comparaison, on a cette structure « comme » qui apparaît systématiquement, tes dents sont comme ceci, tes cheveux sont comme cela, tes lèvres sont comme ceci, tes deux seins sont comme deux fans, etc., etc. Et puis on a parfois des métaphores plus précises qui se déploient, surtout quand le passage se fait plus intime. Alors, qu'est-ce que j'ai relevé? Des images animales, la gazelle bondissante, les colombes, qui sont d'ailleurs les colombes partagées par les deux amants. Alors quand je dis amant, je l'entends au sens ancien, au sens du français ancien, donc c'est les deux amoureux. Je précise ça pour pas qu'on fasse de fausses interprétations. Ce terme qui est très joli par ailleurs, donc entre ces deux amants, on a donc des échanges mutuels. L'un parle des yeux comme une colombe, l'autre reprend cette image. Tes dents sont comme un troupeau de brebis, autre image animale. Alors, ça peut paraître surprenant, ces comparaisons, parce que ce sont des références qui bien souvent nous échappent. Le fait qu'on puisse vanter les dents de son, comment dire, de son conjoint, de sa conjointe, ça peut sembler surprenant, mais pas tant que ça dans le contexte de l'époque où on n'a pas un dentiste au coin de la rue. Donc le fait d'avoir un troupeau de brebis qui fait comme un voile blanc extrêmement, où aucune d'elles n'est stérile, vous voyez l'image quand même de la dent qui manque, enfin, il y a quelque chose sur le regard qui est assez fort. Alors, des images végétales, le lys, la gerbe de blé, comparée pour le ventre, donc des images de fertilité, le pommier, voilà, des images qui frappent l'imagination, un jeu peut-être aussi, parce qu'il y a des références qui nous échappent, mais peut-être qu'on peut imaginer l'auteur qui veut frapper l'esprit, qui veut créer des réactions en trouvant comme ça des descriptions les plus étonnantes possibles. Par exemple, le corps féminin est souvent associé à un vocabulaire de la guerre, qui est plutôt associé à un monde masculin dans l'Antiquité. Et inversement, donc il y a les tours, les fortifications, les remparts, donc une forme de puissance militaire. Et inversement, la description de l'amant, enfin du jeune homme, on voit que c'est une gazelle qui sautille. Ce n'est pas tout à fait l'image virile qu'on se fait à l'époque d'un homme. Donc j'ai l'impression qu'il y a une dimension ludique dans ces descriptions qui mériterait d'être du coup explorée. Il y a sans doute aussi une dimension symbolique que d'autres avant moi ont pris un temps soigneux à explorer. Tout ça est important. Ce qui me semble essentiel, c'est qu'on célèbre la beauté des corps comme faisant partie de la création. Parce qu'en fait, toutes ces images-là, elles ont un lien quand même avec soit l'agriculture, donc la fertilité, donc l'abondance, soit la nature, donc la création de Dieu. Et donc finalement, en célébrant le corps de l'être aimé ou de la personne que l'on désire, c'est une façon pour l'auteur, puisque le désir est aussi réciproque, il y a des relations dynamiques, de célébrer aussi la création, sa beauté. Et de rappeler que nos corps, dans leur diversité, dans leur jeunesse ou dans leur vieillesse, font partie de cette création et sont partie prenante de la beauté de la création. Voilà pour les points les moins clivants. Et ensuite, on a parlé donc d'un poème amoureux, certes, qui donne une place au corps. Vous voyez quelle est la suite logique. C'est un poème qui célèbre le désir sexuel. J'en veux pour preuve la place que prennent les sens dans ce texte. Alors, je ne vais pas tout détailler, vous relirez ça tranquillement, mais je note quand même qu'il est question des yeux et du regard. On en a parlé dimanche dernier, hein. Détourne-moi de tes yeux, dit le bien-aimé à la bien-aimée, car ils me troublent. Chapitre 6, verset 5. Un peu plus loin, les jeunes filles de Jérusalem, chapitre 7, verset 2. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs, deux cœurs, deux armées? Donc, il est question d'un regard comme ça qui apprécie une personne. Un peu plus loin aussi, alors j'ai pas noté la référence, mais quand il est question des hanches, les contours de tes hanches sont l'œuvre des mains d'un artiste. Donc il y a une appréciation visuelle du corps d'autrui. Alors là, on est sur la partie, j'allais dire, la moins suggestive, hein. Ensuite, on arrive sur des choses, je ne développerai pas forcément, mais les autres sens ont clairement une dimension érotique. Le goût, par exemple, lorsqu'il est question de cueillir la myrrhe avec les aromates au chapitre 5, verset 1, je mange mon rayon de miel avec mon miel. Une image qui revient avec insistance et qui est même partagée par les deux personnages, puisque les deux disent ton amour est meilleur que le vin. Donc il y a bien une dimension de plaisir sensoriel, donc sensuel. L'odorat aussi, il y a de très beaux passages sur les parfums, dès le chapitre 1er, au verset 3. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Et là, on a quelque chose d'assez frappant, hein, qui consiste à donner une odeur au nom de la personne, donc à l'identité de la personne, et donc à sa réputation, à sa renommée, on peut aussi supposer. Donc il y a des jeux comme ça sur le plaisir de l'odorat. Je rappelle là aussi qu'on n'est pas dans les mêmes conditions d'hygiène qu'aujourd'hui. C'est comme au XIXe siècle, quand Baudelaire parle de la chevelure très odorante des personnes qu'il rencontre dans ses poèmes. On peut supposer qu'on ne se lave pas les cheveux tous les jours, que les odeurs sont beaucoup plus marquées que ce qu'on connaît aujourd'hui, même si ce n'est pas forcément vrai pour l'Antiquité, puisque le rapport au corps était moins pudique et que probablement que les gens se lavaient davantage que ça a été le cas dans des périodes plus modernes, en particulier en Europe, en particulier en France. Alors, l'odorat, je passe. Lui, la voix, l'importance de la voix. Et on a un appel au chapitre 5, verset 2, qui est assez aussi chouette à étudier. J'étais endormi, donc c'est la bien-aimée qui parle, chapitre 5, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui me frappe. Donc là encore, le plaisir d'entendre un son de voix qui correspond à l'être que l'on désire plus que tout. Et puis, dans les passages les plus suggestifs, donc vous pourrez lire au chapitre 5, verset 5, au chapitre 7, verset 8 et 9, le toucher. Il est question parfum qui se répand sur les mains. Il est question aussi au chapitre 7 de grappes qu'il faut saisir, de rameaux qu'il faut saisir. Donc voilà, je ne vais pas développer, vous avez compris, ni vous faire un dessin. Il y a une charge sensuelle évidente qui est accentuée par des métaphores. Et là où le texte est beau et merveilleux, je trouve, c'est qu'il n'est jamais obscène. C'est-à-dire que plus le texte se fait intime sur les questions d'intimité donc sensuelle ou sexuelle, plus il utilise la métaphore. Il est question de fontaine, il est question de source, il est question de fruits. Au début, on a des comparaisons. Tu es comme ceci, tu es comme cela. Ensuite, il est question d'association directe. La fontaine, la source, le fruit. Comme si plus le texte se faisait intime et donc difficile quelque part à partager, plus il posait des voiles, un voile qui vient dévoiler la situation que tout le monde ne peut pas partager, puisque précisément c'est celle d'une intimité entre deux personnes et qui du coup est exprimée dans le texte. Donc, c'est aussi pour ça que le texte dérange, parce que dans sa forme même, il essaye de nous faire ressentir une émotion sensuelle. C'est-à-dire que c'est un poème qui n'a pas simplement l'amour pour sujet, il a aussi dans son langage quelque chose qui touche à des questionnements et à des problématiques intimes. Alors, si on s'arrêtait là, on aurait l'impression d'un tableau rose, particulièrement, j'allais dire, joyeux, harmonieux entre ces deux personnes qui s'aiment. Alors, je vais développer peut-être un peu plus rapidement ce que j'ai appelé les ombres du cœur, c'est-à-dire tous les éléments dans le poème qui nous avertissent, qui montrent que les choses ne sont pas si simples, qu'il y a un certain nombre de difficultés, de menaces qui pèsent sur cet amour tel qu'il est décrit poétiquement. L'amour est présenté comme une puissance débordante à plusieurs reprises, une force irrésistible, envahissante. J'en veux pour preuve les métaphores militaires. La bien-aimée au chapitre 6, verset 12, explique « Mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. » Donc on imagine un désir tellement puissant qui rappelle un régiment militaire. Par deux fois d'ailleurs, la bien-aimée est qualifiée de terrible par le bien-aimé. Terrible comme des troupes sous leur bannière, comme une armée. On suggère, ça peut être vu positivement comme la force de l'amour, la force du désir, ok, ça peut aussi être vu comme quelque chose qui déborde, quelque chose qui est puissant, quelque chose qui a une force destructrice. D'ailleurs, l'image de la bannière est déjà utilisée au chapitre 2. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Donc une bannière, il y a le côté possessif, le côté presque conquérant de l'amour qui peut, par ailleurs, être difficile à gérer. Donc l'amour n'est pas simplement, surtout dans un monde, et c'est là peut-être les épines autour d'Ulysse évoquées par l'image du début du poème, dans un monde marqué par la chute et par le péché, l'amour est aussi possessif et destructeur. Et je crois que le texte nous avertit sur ça. Il est particulièrement sensible au chapitre 8, même s'il y a une portée théologique dans ce passage que j'aimerais développer plus tard, mais quand il est question d'un amour fort comme la mort, d'une jalousie inflexible, des ardeurs de feu, donc on a quand même l'image d'une puissance qui ravage. L'autre preuve qui montre qu'on a bien un avertissement, c'est le nombre d'avertissements sur lesquels je reviendrai qui sont dits dans le livre. Je vais vous en parler un petit peu après, mais je vais en parler maintenant. C'est-à-dire que si vous regardez au chapitre 2, verset 7, on va faire des allers-retours, hein, chapitre 2, verset 7, « Je vous en conjure, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Parfois c'est traduit « il le veuille, elle le veuille ». Cette phrase-là, « je vous en conjure, ne réveillez pas l'amour », elle revient trois fois dans le texte, au chapitre 2, verset 7, chapitre 3, verset 5, au chapitre 8, verset 4. Donc, l'amour peut nous dominer, l'amour peut nous faire souffrir en nous emmenant loin de là où on aurait pensé aller. Alors, ça se traduit concrètement par cette jeune femme qui dit à deux reprises « Je suis malade d'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. » Chapitre 2, verset 5. « Si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour ?» Chapitre 5, verset 8. Donc, on a une dimension ici qui peut être de l'ordre peut-être d'un désir trop puissant, d'un désir qui a été frustré, voire d'un désir, on peut l'imaginer si on reste dans la thématique de la sexualité, d'un désir qui n'est plus dominé par la personne. L'exemple de Salomon est quand même intéressant à ce titre, hein, si on part du principe qu'il fait référence à Salomon, et il y a au chapitre 6 référence à son harem, chapitre 8, il y a 60 reines, 80 concubines, des jeunes filles sans nom, mais toi tu es différente, bah, c'est quand même Salomon qui parle. Donc on a quelque chose sur la sexualité compulsive, qui est une menace aussi, qui peut derrière guetter cette force du désir amoureux. Donc pour le dire simplement, dans le Cantique des Cantiques, l'amour n'est pas un long fleuve tranquille et peut occasionner des souffrances. Et là, on touche quelque chose qui est quand même assez mystérieux, c'est le comportement du bien-aimé. Et c'est pour ça que les métaphores et les interprétations élaboriques, elles ont leurs limites. Le bien-aimé est en permanence absent après des moments de présence intense. Elle est toujours en train de le chercher. La bien-aimée cherche son bien-aimé qui lui échappe. Chapitre 3, versets 1 et 2. « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. » Un peu plus loin, au chapitre 5, après en plus un passage qui est considéré comme un des plus intenses sensuellement, « J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. » Donc on a une poétique de la fuite qui caractérise le bien-aimé jusqu'à la fin du texte, où c'est elle qui lui dit de fuir, de façon étonnante, et qui occasionne des souffrances intérieures qu'on peut analyser de plein de façons allégoriques, c'était précisément le cas dans la tradition chrétienne, mais qu'on peut aussi analyser de manière plus pratique, c'est-à-dire qu'un amour réveillé trop tôt, ou un amour qui est frustré, ou un amour qu'on n'arrive pas à maîtriser pour une raison X ou Y dans sa situation, bah, est un amour qui va nous toucher, qui va provoquer chez nous des difficultés, des insomnies, comme cette personne, cette jeune femme qui n'arrive pas à dormir à plusieurs reprises, les questions de son sommeil qu'elle ne trouve pas, des mises en danger même, puisque à deux reprises elle sort pour aller chercher son bien-aimé et elle se fait violenter par les gardiens de la ville. Donc il me semble quand même que, et c'est assez beau de le souligner, c'est pas qu'un texte sur l'amour, c'est aussi un texte sur les souffrances occasionnées par l'amour, peu importe la structure qu'on choisit, il y a quand même ces passages qui sont là, et l'idée que Dieu voit aussi le manque, la frustration, l'incertitude, quand on est gagné par des questionnements amoureux et qu'on ne sait pas à quoi ça va aboutir, surtout quand on est jeune, mais après tout, ce n'est pas une question d'âge, l'incertitude, tout ça, les émois, ce qu'on appelait dans le milieu romantique les émois amoureux, dans leurs difficultés, Dieu les prend au sérieux, et en parle aussi, à mot couvert, sans doute, probablement que ce n'est pas l'objet principal, mais il en parle, il met en scène la douleur de l'attente, l'incertitude, le manque, et les menaces extérieures. Je voulais développer ça tout à l'heure, mais j'aurais pas le temps, donc je passe. Mais il y a quand même des personnages étranges, un peu ambigus, qui entourent la jeune femme en particulier. Des gardiens qui veulent mettre des portes, qui veulent mettre des cloisons sur leur jeune sœur, qui est à peine pubère. Il est question aussi d'un homme mûr, qui a déjà des femmes et des concubines, et qui dit à une jeune femme « tu es parfaite ». Donc il y a des choses qui peut-être pointe du doigt les profiteurs du désir, c'est-à-dire que tous ceux, souvent des hommes quand même, qui vont faire du désir un objet de prédation ou un objet de quelque part de satisfaction personnelle en jouant avec des désirs qui parfois ne sont pas maîtrisés à des moments où ça ne devrait pas être le cas. Voilà. Alors, j'en viens du coup aux enseignements qu'il faut en tirer. Puisqu'il me semble que ce texte, à la fois cantique amoureux et en même temps cantique et en même temps poème d'avertissement, nous apporte des enseignements de sagesse sur lesquels je terminerai mon propos. Je vois. Donc, le premier enseignement que j'en tire, et je mets de côté tous les enseignements allégoriques qui sont très importants, mais comme ce n'est pas mon objet ce matin, ça pourra faire l'objet d'études postérieure, pardon. Donc, le cantique nous rappelle, premier point, que la sexualité fait partie de l'ordre créateur de Dieu. Que c'est une bonne chose. Elle est belle devant Dieu. Le désir, notre désir, nos désirs, dans le plan original de Dieu, est une bonne chose. Et c'est quand même fort que le plus beau des cantiques, le cantique des cantiques, porte sur cette question. Elle n'a pas non plus toujours une finalité reproductive, contrairement à la tradition, à ce que la tradition affirme, même s'il y a dans le texte des éléments qui laisse notamment des éléments en rapport avec la fertilité, avec le fait, la vitalité. On voit ici que le plaisir en tant que tel est valorisé par le texte, le plaisir sensuel. Et c'est cohérent avec les autres livres de sagesse. Je pense par exemple à ce passage de Proverbe 5, au verset 18. Proverbe 5, verset 18. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, on retrouve l'image de la gazelle. Sois en tout enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour, etc., etc. Et juste après, on a des avertissements qui arrivent. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, embrasserais-tu le sein d'un inconnu, etc. Et donc, le regard de Dieu vient contrebalancer l'affirmation pleine et entière de la valeur du plaisir devant lui. Dans l'Ecclésiaste aussi, on peut lire au chapitre 5, « Voici ce que j'ai vu, c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger, de boire, de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. » Et on connaît la suite, les avertissements sur la crainte de Dieu. C'est-à-dire que tout ça est contrebalancé par un certain nombre d'éléments, d'avertissements qui viennent faire contrepoint. Alors, là, il y a une question, c'est et le mariage ? Parce qu'effectivement, il y a des personnes, vous verrez dans vos Bibles, qui identifient des moments des noces, à certains moments bien précis, qui correspondent bien à la morale telle qu'on la comprend. Et ce n'est pas si clair dans le texte, parce que je pense, au risque peut-être de choquer, mais que le texte nous renvoie plutôt, non pas à un ordre légal qui est celui qu'on connaît actuellement, une sexualité dans le cadre du mariage, mais à un ordre primitif, premier, qui est celui du jardin d'Éden, qui précède la chute. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Toutes les images de jardin, toutes les images de fertilité, de végétation luxuriante. Au chapitre 2, versets 3 à 13, on ne va peut-être pas tout lire, ce serait un peu trop long. Chapitre 4, versets 2 à 5. Chapitre 6, verset 11, peut-être celui-ci est important. Verset 11, « Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers, fleurissent. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au chardon de mon noble peuple, etc. » Donc, on a des évocations très précises d'un jardin qui peuvent renvoyer au premier temps de l'humanité, de ce jardin d'Éden dans lequel hommes et femmes, à la fin de Genèse 2, vivaient nus et sans honte. Donc, cette évocation-là est d'autant plus forte qu'il est question aussi de sommeil, de réveil, d'endormissement. Or, sans en faire un sujet à part entière, mais une évocation poétique, on se rappelle que la création de l'homme et de la femme implique à un moment donné un sommeil, puisque la femme est tirée de la côte d'Adam pendant son sommeil. Donc peut-être qu'on peut voir ici, en tirant vraiment très loin les fils, une évocation de cette sexualité qui était vécue, cet amour, ce désir qui était vécu en se réveillant dans le jardin prévu par Dieu. Voilà, alors, sur ce point-là, j'insiste là-dessus, donc beauté, valeur de la sexualité et du corps devant Dieu. Pour autant, le cantique nous rappelle que dans un monde marqué par le péché, par la chute, le désir est aussi une puissance piégée, qui doit nous inviter à la prudence. J'en veux pour preuve tous les avertissements que j'ai évoqués tout à l'heure. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille ou avant qu'elle le veuille. Ça nous conduit sur une méditation sur le temps, sur le bon temps, sur le temps adapté, qui renvoie aussi aux réflexions de Salomon dans l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, un temps pour aimer, un temps pour ne pas aimer. Il y a donc aussi un temps adapté pour tout. Et probablement que ce désir-là, à cause de sa force, à cause de ses pièges, à cause aussi de sa puissance positive, demande du temps. Il demande du temps et il connaîtra de toute façon des temps différents, puisqu'il existe des situations très variées, le célibat, le veuvage, la séparation, malheureusement. Donc nous sommes soumis à un temps qui dégrade globalement les relations amoureuses. Donc, là-dedans, une vigilance particulière s'impose pour garder la force positive, mais aussi sécurisante, du désir selon Dieu. Et l'image du jardin est, à mon sens, très forte, puisque un jardin, on en prend soin. Un jardin, il peut parfois se peupler d'herbes folles, il peut parfois être dégradé par des déséquilibres climatiques. Un jardin demande du soin et du temps. Et là-dessus, le texte est quand même assez clair, puisqu'au chapitre 8, il est question d'engagement. Chapitre 8, verset 6. Je t'ai réveillé sous le pommier, encore le jardin. Là, ta mère t'a enfanté, c'est qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Donc, l'image de la création, l'image juvénile aussi de l'innocence. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Et cette image de l'engagement, qui peut faire penser aussi à l'engagement amoureux, l'engagement sérieux, nous renvoie au dernier point que je développe, à savoir l'engagement de Dieu lui-même. Et on a dans ce passage, dans ce poème amoureux, un passage qui, à mon avis, pointe vers l'amour de Dieu, vers l'amour éternel. Ce passage-là précisément, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Alors j'en ai fait une interprétation plutôt négative tout à l'heure. On peut, avec, puisque le texte permet, en faire une interprétation très différente, en expliquant que cet amour fort comme la mort, c'est peut-être l'amour de Dieu. Cet amour que nos amours terrestres parfois reflètent maladroitement, c'est un amour qui est marqué par un sceau, son alliance envers nous, son alliance, son engagement envers nous, un sceau que rien, ni la mort, ni le séjour des morts, ne peuvent abîmer. La résurrection est un exemple, pour rester sur le thème de ce qu'on avait développé la dernière fois. Dieu qui fait preuve d'une jalousie inflexible à notre endroit, donc qui ne tolère pas la séparation, l'oubli, l'éloignement, l'amour de Dieu qui nous protège du séjour des morts, du néant, et qu'on voit justement par cette flamme mobilisée ici. Cette flamme qui peut évoquer la puissance de l'esprit, qui brûle en chacun de nous, qui purifie aussi peut-être nos élans parfois tumultueux, un feu qui nous garde dans son amour éternel. Alors, si j'avais, à la suite de ce message, des encouragements pour cette semaine, ce serait déjà de ne pas avoir peur et de ne pas avoir honte de lire ce texte, qui, je pense, est très important, de ne pas être non plus, gêné par l'intérêt qu'il peut susciter. Ma prière pour cette semaine, c'est qu'on puisse justement regarder nos imperfections, nos corps imparfaits, nos désirs parfois tumultueux, nos situations sentimentales qui peuvent être variables, qui connaissent des fragilités, des incertitudes, parfois des plénitudes, et tout ça, le regarder à travers le regard de celui qui, de toute façon, nous désire, puisqu'il est question d'un désir mutuel, et que le désir, celui qui nous désire, c'est Dieu. Et ce désir-là, il est positif, il est éternel, il n'a pas d'altération. Ce Dieu qui nous désire et qui nous dit, et vous pouvez vous répéter chaque matin cette phrase, qui nous dit chaque matin que tu es belle, que tu es beau, mon ami, que tu es belle. Voilà, je m'arrête ici, je vous remercie de votre attention.